Je l'ai fait comme si tu me demandais quelle est la différence entre un chien et un chat. Imagine quelqu'un qui, d'une façon quelconque, a entendu parler de quelque chose comme le divin, ou un sentiment personnel qu'il y a quelque chose comme ça, et qui se met à faire des efforts de tout genre, des efforts de volonté, des efforts de discipline, des efforts de concentration, toutes sortes d'efforts pour trouver ce divin, pour découvrir ce que c'est, pour en prendre connaissance. Et pour s'unir à lui. Alors cette personne fait un yoga. Maintenant, si cette personne a noté tous les procédés qu'il a employés et qu'il construit un système fixe et que tout ce qu'il a découvert, il l'érige en loi absolue. Par exemple, il dit le divin est comme ceci. Pour trouver le divin, il faut faire comme ça. Tel geste, telle attitude, telle cérémonie, et il faut que vous admettiez que ça, c'est la vérité. Et que vous disiez, je reconnais que ça, c'est la vérité. Et que j'adhère pleinement à ça, et que votre méthode est la seule bonne, la seule qui existe. Si tout ça est écrit, et organisé, et arrangé en loi, et en cérémonie fixe, ça devient une religion. Tu as compris? Un peu. C'est tout.
Parce que on ne peut pas atteindre le divin.
Quoi?
Est-ce que par cette méthode, on ne peut pas réaliser le Dieu?
Par quoi?
Par cette méthode, la religion.
Les gens qui portent en eux une destinée spirituelle et qui sont nés pour réaliser le divin, prendre conscience en lui et le vivre, n'importe quel chemin ils suivront, ils arriveront. C'est-à-dire que même dans la religion, il y a des gens qui ont eu l'expérience spirituelle et qui ont trouvé le divin. Pas à cause de la religion, généralement malgré elle, en dépit d'elle. Parce qu'ils avaient l'élan intérieur et que cet élan les a conduits là malgré tous les obstacles et à travers eux, tout leur a été bon. Mais s'ils veulent, si ces mêmes gens veulent exprimer leur expérience et se servent naturellement des termes de la religion dans laquelle ils ont été éduqués, alors ils réduisent leur expérience et la limitent forcément beaucoup. La rendre, pour ainsi dire, sectaire. Mais pour eux, ils peuvent très bien avoir dépassé toutes les formes et toutes les limites et toutes les conventions et avoir eu l'expérience vraie dans sa simplicité même.
Dans le monde, maintenant, la plupart des gens suivent une religion quelconque. Est-ce que ça peut aider?
Pas beaucoup. Peut-être qu'ils recommencent maintenant, mais pendant très longtemps, pendant tout le commencement de ce siècle, ils avaient répudié la religion comme une chose qui était contraire à la connaissance. En tout cas, l'humanité intellectuelle. Et c'est seulement maintenant qu'il commence à y avoir un mouvement de retour vers quelque chose d'autre qu'un positivisme à tout craint. Les gens suivent la religion par habitude sociale, pour ne pas se faire mal voir des autres. Par exemple, dans un village, il est difficile de ne pas aller aux cérémonies religieuses parce que tous les voisins vous montrent du doigt. Mais ça n'a absolument rien à faire avec la vie spirituelle. Rien du tout. La première fois que je suis venu dans l'Inde, je suis venu sur un bateau japonais. Et sur ce bateau japonais, il y avait deux clergymen. C'est-à-dire des prêtres protestants de sectes différentes. Je ne me souviens plus exactement des sectes. Ils étaient tous les deux anglais. Je crois que l'un était anglican et l'autre était presbytérien. Et alors, est arrivé le dimanche. Il fallait bien faire une cérémonie religieuse sur le bateau, autrement on aurait eu l'air de païens comme les Japonais. Il fallait qu'il y ait une cérémonie religieuse, mais qui la ferait? Est-ce que ce serait l'anglican ou est-ce que ce serait le presbytérien? Il a fallu y avoir les Coréens. Finalement, l'un s'est retiré avec dignité, je ne me souviens plus lequel, je crois que c'était l'anglican, et le presbytérien a fait sa cérémonie. Ça se passait dans le salon du bateau. On descendait quelques marches pour aller dans ce salon. Alors, ce jour-là, tous les hommes avaient mis leur veste. Il faisait chaud. Je crois qu'on était dans la mer Rouge. Ils avaient mis des vestes, des faux cols, des souliers de cuir, des cravates bien attachées, un chapeau sur la tête. Et ils sont allés avec un livre sous le bras, presque en procession, depuis le pont jusqu'au salon. Les dames avaient un chapeau, il y en avait qui avaient une autre. Et elles avaient aussi leur livre sous le bras, leur livre de prière. Et alors, ils se sont tous engouffrés dans ce salon et le presbytérien a fait un discours. C'est-à-dire qu'il a fait son prêche. que tout le monde a entendu très religieusement. Et puis, quand ça a été fini, ils sont remontés tous avec l'air satisfait de quelqu'un qui a rempli son devoir. Et naturellement, 5 minutes après, ils étaient au bar, en train de boire et de jouer aux cartes. Et leur cérémonie religieuse, ils avaient fait leur devoir, c'était fini, il n'en était plus question. Et le clergyman est venu me demander, plus ou moins poliment, pourquoi je n'avais pas assisté. Je lui ai dit, monsieur, je regrette, mais je ne crois pas à la religion. Oh, oh, you are a materialist. Non, pas du tout. Alors pourquoi? Oh, je lui dis, si je vous le dirais, si je vous le disais, vous seriez tout à fait mécontent, il vaut peut-être mieux que je ne vous le dise pas. Il a tellement insisté, que j'ai fini par lui dire, figurez-vous, je ne trouve pas que vous soyez sincère. Ni vous, ni vos ouailles, vous êtes allé là pour remplir un devoir social et une habitude sociale, mais pas du tout parce que vous aviez vraiment envie d'entrer en relation avec Dieu. Entrer en relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas faire ça, ce n'est pas ça. Tout ce que nous pouvons dire, c'est de bonnes paroles. Mais nous n'avons aucune capacité d'entrer en relation avec Dieu. Alors j'ai dit, mais c'est justement pour ça que je n'y suis pas allée, parce que ça ne m'intéresse pas. Et après ça, il m'a posé beaucoup de questions. Et il m'a avoué qu'il s'en allait en Chine pour convertir les païens. Alors là, je suis devenue sérieuse. Et je lui dis, écoutez, avant même que votre religion soit née, il n'y a pas encore 2000 ans, les Chinois avaient une très haute philosophie. Et ils avaient un chemin pour les conduire vers le divin. Et quand ils pensent aux Occidentaux, ils pensent à eux comme à des barbares. Et alors, vous allez aller là pour convertir des gens qui savent plus que vous. Qu'est-ce que vous allez leur apprendre? À être insincères, à faire des cérémonies creuses, au lieu de suivre une philosophie profonde et un détachement de la vie qui les mène vers une conscience plus spirituelle. Je ne crois pas que ce soit une chose très bonne que vous avez fait. Alors, il était tellement suffoqué, le pauvre homme, il m'a dit, « I fear, I can't be convinced by your words. » Oh, je dis, je n'essaye pas de vous convaincre. Je vous ai seulement dit la situation que je ne vois pas très bien pourquoi des barbares voudraient aller enseigner à des gens civilisés quelque chose qu'ils savent depuis plus longtemps que vous, c'est tout. Voilà, ça a été fini. Voilà mes enfants. c'est tout.
Mais on dit dans les traditions bouddhiques.
Quoi, quoi?
Dans les traditions bouddhiques.
Oh, oh, vous êtes bouddhiste 6 ans? C'est à la mode, oui.
Entre 2500 de sa naissance.
Oui, il reviendra dans le monde pour prêcher un nouveau bouddhisme, non?
Il paraît que son enseignement sera fini et sera remplacé par quelque chose de nouveau.
Oui, ça c'est pas monsieur, comment s'appelle-t-il, vieille...
Vali.
Vali. Vali qui vous a dit ça?
Quelqu'un a dit ça.
Mais c'est sa théorie.
Est-ce que ça correspond?
Et il m'a dit aussi que... Il pensait que c'était Sri Aurobindo qui avait réalisé l'enseignement du Bouddha. C'est ça? Vous n'êtes pas allé à sa conférence. Et alors, qu'est-ce que vous vouliez demander?
Est-ce que ça correspond avec...
Quoi, quoi?
Parce que c'est maintenant, c'est demain, c'est le jour. Alors, est-ce que ça correspond avec la nouvelle chose?
Quelle nouvelle chose?
La nouvelle langue de
Sébastien. Oh, écoute.
Si sans le savoir, il est bon, c'est réalisé.
Vous êtes sûr qu'on a écrit ça?
Ceux qui ont assisté disent.
Hein?
Ceux qui ont assisté disent ça.
Je crois qu'ils ont... Ils ont sorti ça à l'occasion du 2500e anniversaire. Ça me paraît tout à fait... Ce genre de découverte qu'on fait quand on veut faire quelque chose de sensationnel. Il y a toujours beaucoup de façons d'interpréter les textes. Et on le fait suivant ce que l'on veut leur faire dire. Ça me fait penser à une chose. Est-ce qu'on a retrouvé les sons avec lesquels on lisait les hiéroglyphes?
Égyptien, même. Égyptien.
Oui, hiéroglyphes, c'est égyptien.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a retrouvé le langage parlé il y a 5000 ans.
Parce qu'il y a les hiéroglyphes qui sont aussi phonétiques.
Phonétiques. Où est-ce qu'on peut se procurer ça?
C'est dans la bibliothèque, mais il y a quelque
chose.
Il doit y avoir quelque chose sur la langue égyptienne.
Parce que je me suis demandé comment ils avaient restauré les noms des pharaons et des... Naturellement, les choses plus récentes ont été... On en a parlé, les Grecs en ont parlé, les Phéniciens en ont parlé, et alors eux, ils avaient des langages phonétiques. Mais... plus ancien que ça. Les premiers pharaons, et tous ces noms de dieux, et qui est-ce qui a trouvé ça?
La tradition dit que c'est Champollion.
Ah oui.
Avec la pierre de Rosette. Oui. On a trouvé une pierre avec des écritures en égyptien, en grec, qui a permis de faire de résoudre le problème.
Il était sûr que c'était la même chose qui était écrit en égyptien et en grec. Comment était-il sûr?
Et on avait une vague idée de quelqu'un. On a eu des points de repère, ça a eu des points de repère, des recoupements.
Mais ça, c'était le sens, c'était pas le son.
Oui.
Quel langage était parlé dans les collèges initiatiques? Comment s'exprimaient-ils ces gens?
Je sais qu'on donne les sons pour les mots. Maintenant, est-ce qu'on connaît la prononciation exacte? C'est autre chose. On ne connaît même pas la prononciation du grec antique. Du grec.
On ne le connaît
pas. On ne sait pas comment c'était prononcé.
Ce langage des Égyptiens anciens, est-ce qu'il est contemporain du plus ancien sanskrit ou plus ancien? Et alors, encore une autre chose. Pour l'écriture cunéiforme de
la
Syrie, c'était phonétique ou c'était hiéroglyphique.
Je crois que là aussi, on peut lire des sons. Parce qu'on a redressé un certain nombre de noms qui étaient donnés dans la Bible.
Ah oui.
Et on a trouvé qu'il y avait eu des déformations, la boucle de nos oreilles.
Oh oui. On a changé ça.
Maintenant, est-ce qu'on est absolument sûr de la
prononciation? Oui, ça me paraît bizarre. Parce que j'ai eu entre les mains un livre, on avait rétabli les noms, ils étaient devenus un peu drôles. Mais enfin, il devait y avoir une certaine façon de prononcer. Et ça, je veux dire, est-ce qu'il y a un des langages humains où on remonte plus loin que le plus vieux sanskrit? Et ce, la dernière chose, ce langage égyptien hiéroglyphique, il est apparenté à la ligne chaldéenne ou à la ligne arienne? Il y a des racines sanscrites qui se trouve dans toutes les langues. Mais c'est ça justement que je voulais demander.
J'ai lu quelque part que les prêtres en Égypte faisaient l'initiation avec des mantras.
Des mantras sanskrit. Mais c'est pas dans un roman, non?
Quelques mots en sanskrit.
Quelques mots en sanskrit. Il y a des racines sanskrites qui se trouvent avec des déformations dans toutes les langues. Et il y a une très vieille tradition qui se prétend antérieure aux deux lignes bifurquantes, l'arienne et la chaldéenne. Mais le grec, par exemple, n'est-ce pas, qui est relativement récent, c'est un langage d'antécédent arien ou d'antécédent chaldéen? Tout à fait arien.
Et l'égyptien, c'était la ligne chaldéenne.
Chaldéenne. Mais pourtant, il y a eu des mélanges entre l'égyptien et le grec.
Les phéniciens, la langue phénicienne était phénicienne, très ancienne. Oui. Au point de vue de l'écriture, elle est antérieure à la langue grecque.
Oui. Mais phénicien, c'est phonétique. C'est une langue phonétique. Et les hiéroglyphes, ça s'écrivait de haut en bas. De haut en bas et de droite à gauche, ou de gauche à droite.
De droite à gauche.
Droite à gauche. Alors ça, c'est comme les... Mais les langues chaldéennes s'écrivent comme ça. Mais le chinois et le japonais aussi. Il n'y a que les langues aryennes qui s'écrivent comme ça. Yeah.